moment comme ça, deux minutes, trois minutes.
Il y a 10 minutes.
Où il est avec toi, le reste de la journée, il dort. C'est pas.
L'opachut. Alors très bien. Alors on dédie le cours d'abord pour la réfoua donc de
Shimon ben
Rachmona
de ma mère Aziza bat Nejma
et Aziza bat Nejma
et Yitzhak ben Clara
et Yitzhak ben Clara également le Ilou Nishmat
Chai Baruch ben Avraham
Chai Baruch ben Avraham Shayom Pekudat Shenato. C'est ça? Tov Rabotai. On va la finir cette piska, ce chapitre 5 de Orot Atechia, au chapitre Nuntet. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va terminer. Et le Rav Kook, qui a passé en revue l'histoire, nous dit « Le kadmuniyut ve le shlemut inenu mitga'ag'im » Donc on est en gaagua, on languit ce qu'il y avait avant et la dimension de, d'entièreté, de perfection. Chefet Tamir Malé Chayim Azizim Nun Tet. Ok? Chefet Shalom Shalom.
Ça commence par
Chefet. Le deuxième paragraphe. Les Kadmuniyut ou les Shlemut. C'est bon? C'est d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors on y va. Les Kadmuniyut ou les Shlemut et Nenu Mitga'agim. Donc on se languit de ce qu'il y avait avant et de la dimension de entièreté. Ve'agaguim em ga'agwe Elohim. En fait, on se languit de quoi? De la présence divine. Ben oui, les amis, on vit dans un monde complètement fou aujourd'hui. Vous imaginez, vous êtes levé le matin et on n'a pas ressenti la présence divine. Caché? Comment c'est possible? On a été à la tefila, on a mis ses tefilines, son talit, et on n'a pas vraiment ressenti la présence divine. On essaye, on fait des mitzvot, on fait les halachot.
On est loin.
À l'époque, il se levait le matin, il ressentait Dieu. On se languit de l'éloignement avec Akadosh Baruch Hu. On s'en languit en fait de la proximité. C'est l'éloignement qui nous rend la chose très difficile. Ben oui, évidemment. Chefetz Tamir Malé Chaim Azizim Mekorim et Mekor Chaya Olamim. Donc, c'est quoi qui va nous permettre d'avoir cette vie, ce lien de vie avec Akadosh Baruch Hu? Dit le Rav Kook, c'est deux choses. Mamlacha ou Mikdash. Kehuna ou Nevoa. Donc on a deux choses. Mamlacha ou Mikdash. Kehuna ou Nevoa. Eh oui. Hein, c'est tout un programme. Exactement.
Mamlacha, c'est la royauté.
Mamlacha, c'est l'indépendance nationale. C'est la souveraineté. Okay, c'est ce que nous avons aujourd'hui, Baruch HaShem, c'est le premier état. Il nous faut également Amikdash, et donc il nous refaut les Kohanim qui bossent au Bet Amikdash et les Nevi'im qui parlent Bimei HaMelachim. Ok? C'est-à-dire? Donc, Mamlacha Amikdash, Keuna ou Nevoa, Amadbi'im et Chotamam al Kol Kinyene Chaim HaKoleim, She'en Anu Pechotim Beyichusam Mikol HaAmim. Il nous manque donc cette entièreté de pouvoir enfin dialoguer avec le reste du monde, mais en venant avec un vrai message. Ce vrai message, c'est quoi? Keuna, Avodat Hashem, Nevoa, Dvar Hashem. Ok, la parole de Dieu, c'est voilà ce qu'on a à dire. Mida gedola shel gvura chomrit, shel musar enoshi, shel kavod leumi, shel osher amami, veshel archavat achayim doreshet hi lanu. Pour arriver à cette dimension de vie, avec la prophétie, avec la Keuna, on a besoin d'avoir un très haut niveau de vaillance matérielle. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'avoir une bonne économie.
De la vaillance maternelle.
Gvura Chomrit.
Kalkalatova.
Kalkalatova. on doit avoir une belle maison, on doit Gvura Chomrit. On peut pas vivre dans un monde spirituel. Ça se passe ici. Donc Gvura Chomrit. Ensuite, on a besoin de Moussar Enoshi. On doit être des gens moraux. C'est-à-dire, donc ça va, l'État d'Israël a une très bonne économie et on est l'armée la plus morale de la terre. Donc ça, c'est pas mal. Shel Kavod Leumi. Ah, il faut avoir du respect. Kavod pour la nation. Idée. Israël arrive troisième au championnat du monde des moins de 20 ans de football. Kavod.
Ça, c'est macho.
Hein, c'est
il
Kavod.
A été éliminé par l'équipe qui a gagné.
Qui a gagné. L'Uruguay.
Deuxième de l'Eurovision.
Ouais, ça, c'est moins un Kavod. C'est troisième d'abord, mais c'est moins un Kavod.
Ouais,
ouais. Quand à l'Eurovision, les gens ils n'oublieront pas de mettre des habits.
Exactement.
Alors on pourra commencer à discuter.
C'est le Rav Gafni qui a dit ça.
Hein?
Le Rav Gafni, il a dit ça.
Ouais, enfin, je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'être le Rav Gafni.
Malheureusement. Il a dit qu'il était prêt à donner des habits à.
C'est ça. C'est... Bon. Voilà ça. Donc, Kavod Leumi, Osher Amami. Osher Amami. Mazé Osher Amami.
Le bonheur.
Le bonheur. Oh, bonheur, voilà, c'est Osher avec un Aïn.
Avec un Aïn, la richesse.
La richesse, mais ça marche aussi. Vous savez que Israël, c'est toujours étonnant. Les gens, ils sont toujours très choqués, mais vous savez qu'on est dans les 10 pays où les gens, ils disent que c'est le plus. Ils sont contents de vivre ici.
De quoi,
il y a des statistiques.
Les plus heureux,
voilà. Quels sont les pays où les gens sont les plus heureux? Et Israël est toujours parmi les 10 meilleurs.
Mais moi, il y a une chose qui m'interpelle. Il y a énormément d'Israéliens qui sont hors d'Israël. Ils sont délocalisés.
Ouais.
Énormément.
D'abord, semble-t-il, ce n'est pas si énormément que ça. C'est juste qu'ils font
un million.
Un million à New York.
Ils sont tous à New York.
Et quand tu dis que l'armée la plus...
morale de la Terre.
Ouais.
Oui.
Et tous les anciens chefs des généraux aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est faire tomber un gouvernement qui est élu démocratiquement.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Moi, j'ai écrit un article extraordinaire sur ça. C'est la clique à
Barak. Oui, d'accord.
C'est organisé, c'est pas spontané.
D'accord, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, c'est pas parce que.
Les plus grands chefs veulent faire tomber un gouvernement démocratiquement élu et tout ça. Il y a des choses qui clochent.
C'est
le Méboulban pré-messianique.
Deux secondes, d'abord, mais ne mélangeons pas tout. La morale, okay, c'est la chorma du bien et du mal. Okay, la morale, c'est ce qui permet de déterminer si un acte est bon ou mauvais. D'accord? Maintenant, la révolution, c'est pas toujours bon, c'est pas toujours mauvais. Donc le fait que notre armée soit l'armée la plus morale de la Terre, ça on le voit dans les faits, dans notre comportement par rapport à nos ennemis, dans le fait que quand nous on fait une opération, on va prendre un milliard de précautions pour que les civils ne soient pas touchés, tout ce que tu veux, machin. Ça c'est une chose. Maintenant après, tu vas avoir des gens, comme les anciens chefs d'état-major, qui sont persuadés, parce qu'on leur a soit mis dans la tête, soit parce que c'est eux qui pensent comme ça, ils sont persuadés que les religieux, la droite, Bibi, c'est la chose la plus mauvaise qui soit pour le peuple juif. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais eux, ils pensent ça vraiment. Donc, ils veulent faire tomber cela. Ils disent, c'est un gouvernement élu. Eh bien, d'accord, alors ils te disent, très bien. La révolution, la révolution française, c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Ça a amené des choses bien? Mais ça a été fait dans le sang. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ils te disent, bien sûr qu'il a été élu démocratiquement, mais c'est parce que le peuple, c'est des moutons, et ils savent pas ce qu'il faut, et nous, on sait ce qui est bien.
Mais eux, ils étaient des moutons.
Mais c'est bien. Non, mais je suis pas d'accord avec eux. Je dis juste qu'on peut pas mettre ça dans le même sac que le fait que notre armée avait morale.
Ah oui.
C'est deux choses complètement différentes.
D'ailleurs,
maintenant, n'oublie pas que ces gens-là, ils sont aussi motivés par leur avancée personnelle. N'oublie pas aussi que tous ces gens-là, qui étaient chefs d'état-major, surtout Barak, il a énormément
il y a
de...
Et...
Non, je ne parle pas de Aaron. Aaron Barak, c'est quelqu'un qui est un idéaliste.
Oui.
Il y croit vraiment à son truc. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un d'idéaliste. Moi, je suis complètement en désaccord avec lui. Mais lui, c'est pas pour son kavod personnel. C'est, il y croit vraiment à son machin. Ehud Barak, c'est un problème personnel. Ehud Barak, il est dégoûté que celui qui était sous son commandement soit devenu bien meilleur que lui dans tout. C'est compliqué.
Hein? C'est
Bibi, sous le commandement de Barak.
C'est un problème d'ego.
C'est un problème d'ego, c'est pas shoot.
Ah, si, il était,
bien sûr.
Ehud Barak, il était rabat. Il était chef de Bibi.
C'est ce que je viens de dire.
Il est jaloux.
C'est ce que je viens de dire.
Il est jaloux.
J'ai écouté une fois.
Hein?
J'ai écouté Tom. Une fois une conférence où il parlait de Ehud Barak. Il disait qu'il a fait des faits militaires extraordinaires qui sont jusqu'à aujourd'hui tenus secret militaire.
C'était un bon général, il n'y a pas de problème. Bon, mais qui tourne. Donc, on a besoin donc de Kavod Leumi, Osher Amami, Veshel Achavat Achaim, Doreshet Ilanu, Trunat Chaim Ka'ele, Shemargaliot, Ruchaniot, Metsuyanot, Muflaot, Mikola Adam, Asher Alpene Adama, Ametsuyot, Benishmatenu Alumit, Yecholot, Liot, Meshubatzot, Bekirba, Leshachlela, Etiofia, Uleosif, La, Ometz, Ugvura, Bepnimiuda. En gros, on doit redevenir un peuple qui inspire. Zéou.
Un exemple pour les nations.
Une inspiration pour les nations. Bien plus qu'un exemple.
Un modèle pour les nations.
C'est, encore une fois, c'est la grandeur d'âme, la grandeur de la réflexion, la grandeur de la morale.
Déjà, on est dans le chemin parce qu'on ne laisse pas différent.
Même non, mais si c'est sûr.
On parle constamment.
Bevadaï. C'est-à-dire que fut un temps où de tout le monde entier, on venait pour voir la Chochma de Shlomo. Malkat Sheva. Shlomo, pas plaque tournante de la Chochma et de l'économie de l'époque. Le Beth Amikdash de Hérode. De tout le monde entier qu'on venait pour voir le Beth Amikdash de Hérode. C'est-à-dire? Donc, on te dit, si l'on te dit, on veut redevenir cette nation qui inspire les autres. D'accord? Aideologia shelanu, shel shlemut chayenu, notre idéologie d'entièreté de la vie, asher ikor echokas lecha umuflat, igam ken krova umuchasha bimlo nishmatenu. Notre idéologie de shlemut, a l'air très très loin, mais en vrai, d'un autre côté, elle est aussi très très proche. Hippo, kol zman she'ein anu asukim le'ashkicha secha, ve'kol zman she'anu shom'im bekolenu apenimi, ha'moshech otanu liten makom lezichonot, ha'mechayim ota gam bime shifluta, be'yot kohev me'eretz kula. Hein? Mais bien sûr. C'est-à-dire que des fois, il faut simplement ne pas faire taire notre voix intérieure. Intérieure, pas que de moi, mais du peuple juif. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a envie en vrai. On sait ce qu'on a envie d'être. On ne veut pas être une Suisse au Moyen-Orient. Non, c'est pas ça qu'on veut. Am Israël, il veut être Am Israël. Mais pour ça, il nous manque un élément essentiel. Amikdash. המקדש זהו המכון של הקולטוס הדתי. מה זה? המקדש זה le meilleur moyen d'exprimer sa relation avec Dieu. אוקיי? זה המקדש. אין מקדש. איפה?
אבל כמה תגיד עבור המקדש? Alors qu'en ce moment, ils se bavardent entre l'antisionisme, l'antisémitisme, l'antisémitisme. Ils ne peuvent pas nous voir en peinture. Comment tu veux qu'ils savent la valeur de l'Arabie Israël. En ce moment, on ne nous aime pas. Il faut dire la vérité.
Chez nous, ce n'est pas le...
On ne parle pas à l'ONU sans condamnation pour une condamnation de l'autre.
J'ai envie de te poser une question.
Il faut changer cette situation.
Mais bien sûr qu'il faut changer cette situation. Mais j'ai envie de te poser une question très simple. Imagine, tu es venu et tu arrives dans une maison et tu dis, ça ne va pas du tout dans cette maison. Je vais tout changer. Il faut chambouler tout ce qu'il y avait, toutes les institutions. Et ça fait un bruit. Et ça remet en cause toutes les institutions qui étaient mises en place déjà depuis très longtemps. Et toi, tu viens, tu bouges tout, et tu crées à la fin exactement la même chose qu'il y avait avant. Est-ce que les gens ne vont pas être énervés contre toi ? Tu as fait tout le balagan pour finalement faire exactement ce qu'il y avait avant. C'est saoulant. Alors, deux secondes. Am Israël, il y a 150 ans, il a commencé à venir et à dire au monde, les amis, j'arrête d'être en exil. Je veux recréer mon pays en terre d'Israël. Je veux revenir. J'étais là. Et j'ai une réalité ancestrale. Je suis le peuple du livre et je reviens. Ah, deux secondes. Le monde entier, il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Le monde entier, c'est d'abord le monde musulman qui a dit, non, vous êtes des soumis. Et de l'autre côté, le monde chrétien qui a dit, non, c'est pas possible, c'est nous Israël.
Démis.
Et le monde chrétien a dit, mais c'est pas possible, c'est nous Israël.
Démis. Oui.
Et toi tu viens et tu dis non, c'est moi, je suis plus Dimi, je suis plus, et c'est plus, vous êtes, vous avez jamais été vraiment Israël, c'est moi qui reviens, la promesse des prophètes, elle se réalise par moi. Alors là, chamboulement du monde entier, toute la théologie chrétienne est remise en cause. Et finalement tu viens et tu crées un pays fantastique, et qu'est-ce que tu dis au monde? Je ne suis rien d'autre finalement qu'un autre pays européen au Moyen-Orient.
Aucun sens.
Il dit, mais ça va pas ou quoi? Vous nous avez chamboulé toutes nos croyances pour finalement dire que vous êtes comme nous? Ben, certainement pas, alors rendez la terre aux Palestiniens. Vous n'êtes pas venu ici pour ça. C'est ce que les goïms pensent, vraiment, profondément. Le fait que ce soit maquillé par des pseudo-raisons morales ou des pseudo-raisons économiques, c'est des bêtises. En vrai, profondément, alors pas le petit mec du BDS, parce que le petit mec du BDS, on verra ça dans le deuxième cours, c'est Stam Amazik, c'est Stam Rachakatan. Mais au-delà,
c'est ça le problème.
Donc toi, il faut que tu viennes et que tu arrêtes de dire que tu es la Suisse du Moyen-Orient. Non ? Ani Medinat Israël, et je suis là pour dévoiler Kdusha Vetahara Vakadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pour ça que je suis là. Je ne peux pas le faire du Beit HaMidrash. Il est impossible d'influencer sur le monde du fin fond du Beit HaMidrash.
Il faut être déterminé impossible. Pour revendiquer notre identité.
Il faut pouvoir,
nationale.
Il faut pouvoir avoir un langage. Si les nations sont organisées en tant que nations, eh bien Israël doit parler en tant que nation. Donc c'était fondamental qu'on crée l'État d'Israël, qu'on ait un drapeau, qu'on ait un hymne, qu'on ait une armée, qu'on ait une économie. Tout ça, c'est fondamental. Tu ne peux pas sinon. Bon, d'accord, maintenant que tu l'as, à quoi elle te sert? Est-ce qu'elle te sert à propager les valeurs du peuple juif? Et c'est ça qu'ils attendent. Quand tu le fais pas, ben ils sont énervés contre toi.
Et Aaron Barak, c'est en fait, c'est
les premiers à le comprendre.
Il y a plus de 7 ans, il est
dans le pays, on se bat.
Non, mais mondialiste,
parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire de ce pays.
Nahon, si on veut être. Nahon, mais c'est très bien. Baruch HaShem, il y a aujourd'hui, enfin, un bérour qui peut être fait. Enfin, je dis enfin pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a enfin une vérification d'identité qui peut être faite. Je vous rappelle quand même que entre les années, allez, je vais schématiser, entre les années 1900, depuis le premier congrès sioniste, et les années 1948, donc on a eu 50 ans de quoi ? Eh bien, de rêve. On avait posé les bases d'un rêve. Et il fallait aller à la réalisation du rêve. On avait un projet. Quand tu as un projet avec une finalité, bah tu te tiens à ce projet-là et il n'y a rien d'autre qui peut te faire bouger à gauche ou à droite. Donc il y avait ce projet, c'était de créer un pays juif. Point. Dedans, il y avait des mecs de gauche, il y avait des mecs de droite, machin. Là. Le projet, le pays juif.
Et là, commençant en 1897, c'est ça ?
Non, ça a commencé bien avant, en vérité. Mais je dis qu'à partir de 1897, ça prend une réalité concrète. Ok ? Maintenant, 48, on crée l'État d'Israël. Yofi, pendant 30 ans, on en est à être occupé à survivre. On a réussi notre projet, il faut qu'il reste viable. Et on est attaqué de toutes parts, et toutes les guerres sont des guerres de survie, des guerres totales, que ce soit 48, soit 67, soit 56, que ce soit 67, soit 73, ce sont des guerres de survie. Jusqu'à 73, jusque donc dans les années 70, à Israël, la seule chose qui l'intéresse, c'est de survivre. On ne peut pas s'occuper de rien. Ok ? Ça y est, après Kippour, la survie du peuple juif est assurée en terre d'Israël. Zéo. Donc on peut commencer à s'occuper d'autre chose. De quoi ? Puisque la survie de l'extérieur, ça y est, maintenant, elle est mise en place. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre qui nous menace au niveau total.
À part l'Iran.
Mais l'Iran, on n'a jamais été en guerre avec l'Iran.
Mais il y a le Hezbollah.
Mais on n'a jamais été en guerre avec l'Iran et le Hezbollah, ils ne peuvent absolument pas détruire Israël.
C'est contre les ayatollahs
qu'on est. Mais même contre les ayatollahs, on n'est pas en guerre officiellement contre les ayatollahs. Alors ils créent, ils crient et ils disent machin. C'est important que militairement parlant, on soit prêt, on soit ce que tu veux.
Vis-à-vis de nous, hein. C'est pas des déclarations sympathiques.
Mais évidemment, évidemment, évidemment que ce n'est pas des déclarations sympathiques. Je veux dire, pour l'instant, on parle que de théorie. Il ne s'est encore rien passé avec l'Iran. Non, je comprends que nous, on doit être totalement prêts. Pardon ?
Pardon ? On sent bien que la marmite est en train de bouillir.
Oui,
quelque chose qui se passe.
Ou en Iran ?
Partout dans
le monde. Oui, partout dans le monde. Est-ce que ça veut forcément dire la 12e guerre mondiale, machin ? Non,
oui, mais ils ont fait Garini, l'Iran.
Mais vous êtes abreux, les amis. Il y a un moment donné, il faut que vous éteigniez I-24. À un moment donné, il faut éteindre I-24.
Moi, je ne veux pas I-24, j'ai 14.
L'homme est chané. Gamme 14, il faut l'éteindre de temps en temps. Pour se laisser à un moment donné sans la télé, pour pouvoir réfléchir. Bien sûr qu'il y a le danger nucléaire et qu'il faut qu'au niveau militaire, on soit prêt, bien sûr. Mais je dis aussi que, politiquement parlant, il y en a qui sont très contents de pouvoir agiter le drapeau du danger de l'Iran. Ça permet de ne pas réfléchir à d'autres choses. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas se préparer, je dis qu'il ne faut pas non plus être uniquement en mode... faut faire attention, on risque de mourir, donc tout le reste n'a plus d'importance. Non. Donc je dis, dans les 30 premières années d'État d'Israël, c'était la survie. On a réussi à survivre, c'est bon, on va au prochain. Donc maintenant, on s'occupe d'autre chose. Eh bien, depuis la fin des années 70, début des années 80, il y a eu un mât à part, il y a eu une révolution. La révolution de 77, c'est une révolution que l'État d'Israël devient de droite. C'est une révolution. Avec Begin au pouvoir. Mais c'est une révolution à quel niveau ? Pas au niveau politique.
Social.
Mais bien sûr, la vraie révolution, elle n'est pas tellement politique, parce qu'en vrai, la droite, elle n'a pas fait plus de conquêtes, elle n'a pas fait plus de guerres, au contraire, c'est elle qui a rendu tous les territoires. Donc la révolution, elle n'est pas au niveau politique. Pour ça, elle a rendu les territoires.
De réparer. Elle a rien rendu, elle a donné.
Elle a donné.
Rendre, ça veut dire que ça leur appartenait.
Ben, c'est là, tu as raison. Tu as raison. Je ne... C'est-à-dire, tu as raison. La vraie révolution, elle est au niveau économique, au niveau social. On est passé d'un État socialiste qui ne marche pas, je veux dire, jusqu'aux années 80. Israël, c'était même pas le tiers-monde, c'était le quatrième monde. Les mecs qui sont arrivés, je ne sais pas si vous êtes arrivés à ce moment-là, mais dans les années, la fin des années 70, des années 80, Israël, c'était une poubelle. Les gens, ils n'avaient rien à manger. Il n'y avait pas d'argent.
400% d'inflation.
400% d'inflation. Donc il y a eu une vraie révolution avec le capitalisme, avec le marché, le libre marché, la libre échange, ce que tu veux, nanana. Et aujourd'hui, on a une puissance économique incroyable. Donc, pendant les 30 années qui ont suivi, entre les années 80 et les années 2010, on a mis en place une puissance sociale et économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inégalités, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes.
Bah ouais.
C'est-à-dire, mais
la recherche, après, on a beaucoup évolué dans la recherche,
dans la technologie, machin, ce que tu veux. Je vous rappelle quand même que quand on parle tout le temps de seuil de pauvreté, et qu'en Israël, il y a plein de gens qui ont des grands problèmes de financiers, tout ça, machin. Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais, alors d'abord, il faut aider ce qu'on peut aider, mais il faut aussi être conscient des causes. À un moment donné, la vie, c'est pas des bisounours. Quand en Israël, dans la balance économique, tu as toute une partie de la population que tu dois rentrer dans tes statistiques économiques, qui sont la population arabe qui habite en Israël et qui ne travaille pas en grande majorité, Ou alors, que ce soit une grande partie de la population israélienne qui a décidé, juive, de ne pas travailler parce que, genre, étudier la Torah, c'est plus important qu'avoir une parnassa, il ne faut pas se plaindre. Hier, on m'a appelé pour faire un don à une yeshiva. J'ai posé une question. C'est-à-dire, la personne qui m'a appelé, je lui ai dit, c'est Amélien, ça fait 3 ans que tu es en Israël, tu ne m'as jamais téléphoné. Salut, comment ça va ? Là, tu as besoin que tu fasses un don à la yeshiva, donc tu as trouvé mon numéro, c'est intéressant. Mais ça, c'est personnellement entre toi et moi. Maintenant, j'ai demandé, tu veux que je fasse un don à ta yeshiva ? Alors, je vais poser une question. Quelle est leur politique par rapport à la sortie du travail et le kollel ? Est-ce qu'ils prônent que tu ailles au kollel ou est-ce qu'ils prônent que tu restes 2 ans à la yeshiva et ensuite tu vas travailler ?
Il
dit, attends, tu te rends pas compte l'importance de créer des talmidei chachamim ? J'ai dit, très bien, alors ça se fera sans mes dons. J'ai dit, très bien, donc ça se fera sans mes dons. Sans mon argent. Tu veux que je donne de l'argent pour que tu puisses continuer à pas travailler ? Bah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais tu te rends pas compte, la Torah va s'effondrer. Je dis, non, ça va, chez le Rabbi Nishai, on étudie la Torah.
Pourquoi étudier la Torah et travailler ?
Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes, certes, mais des fois, il faut aussi voir quelles sont les causes de ces problèmes. Je dis simplement que maintenant, depuis les années 2010, notre survie physique, militaire et notre survie économique est assurée. Donc maintenant, on peut commencer à penser qui on est. Parce que tant que tu as besoin d'assurer ce qu'il y a dans le frigo, tu ne peux pas te poser la question de qui tu es.
D'ailleurs, c'est la guerre qu'il y a actuellement.
Évidemment. Dans la guerre de maintenant, c'est une guerre identitaire. Oui. Mais parce qu'avant, on ne pouvait pas se la poser cette question-là. On était occupé à la survie, qu'elle soit militaire ou après économique. Maintenant que Baruch Hashem, on est fort, alors on peut se poser les vraies questions. Et vous comprenez que c'était nécessaire que d'abord on construise le corps, et maintenant on pose des questions de Neshama, on pose des questions d'identité. Et Aaron Barak qui vient, il te dit, bah moi je pense qu'il n'y a pas d'identité juive. Voilà. Moi, je pense qu'on est des Occidentaux, point. On est cosmopolite. Aaron Barak, c'est la version moderne de Paul.
Peut-être qu'actuellement, c'est une cosmopolite, parce qu'on arrive à toutes les nations. Mais avec les générations, ça finira par
être une génération
de la même façon de
penser. On va arriver à faire une vérification de nos identités.
C'est vrai que c'est un peu cosmopolite. Pourquoi ? Parce qu'on arrive chacun d'un pays différent. Mais ça
vient.
La langue est différente.
Mais je suis d'accord avec toi.
Tout est différent.
Je suis bien d'accord avec toi. Donc ça prend du temps. Et maintenant, nous sommes arrivés à l'époque. Mais bien sûr. Mais ça s'appelle un bérour. Tu vas amener. Il y a des choses que tu vas garder. Il y a des choses qu'on ne va pas garder. Le schnapps, on va garder. Schnapps, on va garder.
C'est le même parallèle. Enfin, tu as très bien expliqué, je trouve, les étapes entre la sécurité. Non, mais ça m'a fait penser, en fait, à la sortie d'Égypte.
Mais bien, mais Barou. Mais c'est le même. Ouais. D'abord, on sort
physiquement.
Après, on a un problème de manne. Et après, on va pouvoir commencer à se poser la question de, OK, alors, qui on est ?
Donc, comme ça se répète de ce point de vue-là,
mais bien sûr. Mais bien sûr que c'est dans le bon sens. Rabotai, c'est très bien ce qui nous arrive. Là, on vit dans le balagan, donc on est énervé, la réforme, pas la réforme, machin. Mais c'est d'ailleurs, mais le processus, il va dans le bon sens. Enfin, on se pose des vraies questions. Qu'est-ce que c'est que ce pays ?
C'est la misère qui est les cacahuètes.
Tant qu'il y a.
Ça, c'est
international. Quand tu vois des jeunes qui revendiquent la liberté d'expression, la démocratie, et qui empêchent pour les 75 ans d'Israël à New York un ministre qui font bouche avec un filou la chèvre, tu te dis Israélien au nom de la démocratie.
C'est pas grave. Mais ça veut dire quoi ? Alors eux, ils ont tort et ils sont trucs, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que encore une fois, tu crois que ça va se faire en 5 minutes ? Ça va pas se faire en 5 minutes.
Ils sont manipulés.
Ça va prendre des dizaines d'années avant que notre identité elle soit véritablement formée. Mais là, enfin, ça y est, on peut se poser la question qui on est. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui disent nous on est ça. Ben non, t'es pas ça. Nous on est ça. Ben non, t'es pas ça. Donc c'est Bessader, c'est Tov.
C'est
Tov.
C'est un petit peu par rapport à la sortie d'Égypte. Quand on était acculé devant
au début.
Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne.
Oui, mais ça c'est le stress. Ça c'est pas les vraies questions. Ça c'est le stress quand on est face à un danger de mort. Donc il y a des gens qui réagissent comme ci, comme ci, comme ça. Mais là on parle pas de cela. Là on parle de justement Korach.
Il faut avoir des visionnaires.
C'est la paracha de Korach. On parle de qui on est. C'est de ça qu'on va parler dans le deuxième cours. Mais de qui on est ? Zachela ! Zachela ! Et c'est ça qu'on est en train de vérifier. Donc nous dit le Rav Kook, En malasot, Amikdash, Zehu ha-machon shel ha-kultus ha-dati ha-atik asher yeh chadash la'ad. Il était vieux le Mikdash, mais il va redevenir nouveau pour l'éternité. Asher, Yikach cherem et ha-ililiyut עם תואבותיה ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי רוחניים אשר ממנו יצא אורה וחופשה ההולכות ומתפתחות בתולדה האנושית ומתרשלות במהלכן כפי רחוקה ממקור מוצאם והן אמנם עתידות להתגבר לפי חזרתן אל מקור מבואן. Le Bet HaMikdash et le dévoilement divin au Bet HaMikdash a amené la fin de l'idolâtrie. Le monde entier a été influencé par le monodéisme.
Mais le, tout esprit grec, là, on est.
Il y a dans. Mais qu'est-ce qui reste dans le.
La Bible a été traduite en.
Deux secondes. C'est ce qu'il te dit de la phrase d'après, on vient de lire. Il te dit comme ils se sont éloignés de ma corps, de leur HPA, et bien après, ils l'ont dévoyé. Enbaya. Mais qu'il y ait aujourd'hui la culture occidentale qui est partout. Il reste encore de l'idolâtrie grecque aujourd'hui ? Non. Il reste d'autres trucs de la culture grecque qui ne sont pas forcément tous bonnes. Les mœurs, ce n'est pas très top ce qui se passe. Mais il ne reste plus d'idolâtrie. Le makor de la relation avec le divin a été mis en place.
L'humanité, elle a évolué.
Et d'accord. Et pourquoi elle a évolué ? Grâce au Beth Amikdash, à l'époque. Maintenant, comme au fur et à mesure des époques, et surtout quand le Beth Amikdash a été détruit, ben les gens, ils ont évolué, mais ils n'étaient plus rattachés à l'origine de leur évolution. Donc, ça a fait ce que ça a fait. Ça, il faut juste le rappeler. Ok ? Mettons ma voix. Aenoshiut abriya, kshei, makeret et hoda elohut, tishaer nichocho ki gmula leimo, tishkach mipene gov'o, oro ve'uzo, et kol itchakmuyotea. ותדע שיקר לה רגשה הטבעי והמחכימה יותר מכל חוכמה, כשהוא בנוי על יסוד איתן של הטבע הפסיכי, המאותר באתרת ההכרה, המתעלה על עד לעד תישאר אלומה. Lorsque les nations vont prendre conscience de ce qu'ils peuvent gagner de leur retour au Makor, et bien ils vont dire, ok, c'est-à-dire, on arrête avec toutes les bêtises. On arrête de chercher des noix à Israël. En fait, on va les aider à reconstruire le Beth Amikdash. C'est pour nous aussi. C'est pas chute.
Ça paraît irréel.
Ça paraît tellement réel. Rappelle-toi le nombre de goyim qui nous ont aidés à créer l'État d'Israël. Maintenant, tu as créé l'État d'Israël parce qu'il y avait plein de gens qui étaient idéalistes là-dedans. Et après... On a commencé à leur dire non mais en fait on veut pas remplir notre rôle, donc ils sont énervés. Mais t'inquiète pas, ça va revenir.
On veut pas remplir notre rôle.
Donc il y a des gens qui sont énervés, mais t'inquiète pas, ça va revenir. Il y a un musée à Jérusalem qui nous dérange parce qu'il a été fait par de l'argent évangéliste, mais il est très bien. Si tu veux faire, qui s'appelle le Foz Museum. Tu as déjà été? Alors, ça coûte 50 shekels l'entrée. Et c'est vrai que ça a été créé par des chrétiens évangélistes, avec tout ce que ça veut dire, que dans leur subconscient profond, ils veulent que tous les juifs soient en Israël et qu'ils fassent tout Shabbat, pour qu'enfin la société dans laquelle Jésus a pu voir le jour à l'époque revienne, pour qu'enfin ils puissent revenir et que tous les juifs puissent accepter cette fois-ci.
Ça, c'était. Le Mashiach, c'est Jésus.
Bah, c'est des chrétiens, hein, c'est des chrétiens évangélistes. Mais si tu veux, ça c'est leur idéal, donc c'est pour ça que ça nous pose un problème. Mais c'est les plus grands amis d'Israël qui soient, dans les faits. C'est-à-dire, et en l'occurrence, ils ont fait ce musée-là qui s'appelle Friends of Science Museum, et le musée des amis de Sion. Et tout le musée, il est construit sur, tu passes de salle en salle pour voir quels ont été les différents goïms qui ont aidé le peuple juif à reconstruire leur pays. Et vraiment, il y a des gens extraordinaires.
Des goïms.
Comme par exemple le général Pierre Koenig.
Oui.
Vous connaissez la rue ? Albert Kanning. C'est le premier drapeau israélien qui a flotté militairement parlant, c'est sur la Jeep du général Pierre Koenig.
C'était pas le
point.
Hein?
C'est pas à côté de
Mendy. Non, non, c'est bien avant. C'est quand on avait encore des brigades au sein des Anglais, on était alliés avec les Français.
C'est avant la création
d'Israël. Avant la création d'Israël, bien sûr, Première Guerre mondiale.
Ah oui,
oula. Et il y a une brigade juive qui était rattachée à l'armée anglaise. Oy vey. Il y a une brigade juive qui avait reçu l'ordre de protéger les arrières pour que les Anglais puissent s'enfuir. Et ils se sont battus comme des lions. Et finalement, les Français, ils ont été sauvés. L'unité du général Koenig ont été sauvés. Et donc, résultat des courses, eh bien, à la fin, le général Koenig, il a dit... Les Anglais, ils ne vous laissaient pas brandir votre drapeau à vous parce que vous étiez dans l'armée anglaise. Moi, je mettrai votre drapeau sur ma Jeep et vous pourrez défiler avec votre drapeau. Machin. Nous ? Hein ? Là-bas, non ?
Donc, Koenig, ce n'est pas que des Anglais.
C'est pas que des Anglais. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou.
Je croyais que moi, je devais être juif.
Ben non, pas.
Vous, vous êtes persuadé que le mettre la moudage va arranger les choses.
J'ai fini la lettre 2.
Et quand on dit le nard, on voit bien les dérives qu'il y a eu. C'est très grave.
C'est très, très, vous avez tout à fait raison. Le problème du premier Betamidash. Je vous dis, le problème.
Quand on voit la communauté israélienne,
ouais.
Sans vouloir dire du mal, mais il y a quand même une grosse différence. Quand vous voyez les défilés de ce qu'ils font, qui n'est pas très joli. Ils sont mis une société comme ça qui atteint.
Il y a beaucoup plus de bien dans cette société que de mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bien dans la société que de mal.
Je comprends.
Donc il y a des choses à corriger, bien sûr. Alors pourquoi le Bayit Shlishi va marcher là où les Bayit Rishon et Sheni n'ont pas marché ? C'est parce que le Bayit Rishon n'avait pas.
Attends.
Quoi ?
Terminez votre phrase.
C'est parce que le Bayit Rishon il n'avait pas ce qu'il y avait dans le Bayit Sheni, le Bayit Sheni n'avait pas ce qu'il y avait dans le Bayit Rishon. Le Bayit Rishon il y avait la kedusha de la collectivité, mais pas de l'individu. Alors que dans le Bayit Sheni, il y avait la kedusha de l'individu et pas de la collectivité. Donc on est en train de retravailler pour créer l'osmose des deux.
Vous croyez qu'on avance vers le
Bayit Sheni ? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, vous êtes là.
Kadish.
Bechavod.
C'est
sûr. Hein ?
C'est sûr.
Hein ? Ah, ah. Ah oui.
Vas-y, il y a trop de monde. C'est pas leur final, c'est trop de monde.
C'est pas la mort.
Tous morts, mais on est en train de finir.
T'as vu ?
Je veux pas de ça. Si l'on essaie, ça va être un excellent.